Chaque semaine, le podcast Lumlu nous propose de découvrir en version audio un des articles publiés dans la revue Sciences et Société de l'Université de Montpellier.
Des forêts françaises à la mangrove, en passant par les forêts boréales ou insulaires, c'est en écartant les feuillages qui abritent animaux, hommes et organismes que l'on accède aux racines d'un monde foisonnant de vie. Mais pour combien de temps encore ? Écosystème aussi riche que menacé par le changement climatique et les activités anthropiques, c'est aux forêts que ce LUM 21 est consacré. Mettez-vous au vert en écoutant LUM.
Des rois sans forêt. C'est dans la forêt dense, au sud du Cameroun, que vit une partie du groupe Baka. Depuis les années 50, la sédentarisation forcée et les limitations des droits d'accès à la forêt ont progressivement coupé ces populations de leurs moyens de subsistance et des pratiques constitutives de leur identité, au premier rang desquelles la chasse. Ils sont les mal nommés, connus sous le nom péjoratif de pygmées, signifiant « haut d'une coudée » en grec ancien. Ce peuple vivait jusque dans les années 50, dans des campements nomades au cœur des forêts équatoriales entre le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine et le Congo. Sur d'anciennes gravures datant de l'époque coloniale, on les trouve volontiers représentés, lance à la main, faisant face à un éléphant presque aussi immense qu'il semble frêle.
La chasse à l'éléphant était pour les Baka un rite initiatique, une épreuve permettant aux jeunes de devenir Touma, c'est-à-dire maître chasseur.
Explique Laurence Boutineau, anthropologue au laboratoire Forêts et Sociétés. Au Cameroun, la vie des Baka se structure autour de cette pratique cinégénétique.
La chasse est collective, elle fait partie d'un mode de vie, de socialisation, de transmission des savoirs.
Elle est également constitutive d'une identité pour les Baka, à l'inverse de leurs voisins du groupe Bantou, avec lesquels ils ont toujours entretenu des liens étroits et complexes.
Ils sont un peu les rois de la forêt et de la nuit, quand les Bantous, sédentaires, sont plus familiers des pratiques diurnes de l'agriculture.
Aujourd'hui, ces campements nomades sont plus discrets, moins nombreux, et s'installent en forêt sur des temps plus courts. Le reste de l'année, les Baka campent en bord de piste près des villages.
Victimes d'exclusion et de racisme, privées de chasse et de forêt, avec un accès limité à l'école et au marché du travail, les Baka sont dans des situations de désœuvrement. Certains dépensent le peu d'argent qu'ils ont dans de petits sachets d'alcool que les commerçants à motocyclette leur fournissent à bon prix.
Pour comprendre cette funeste évolution, il faut, comme souvent en Afrique, remonter à l'époque coloniale. L'arrivée des colonisateurs, missionnaires et administrateurs sur le sol africain nécessitant des approvisionnements importants en nourriture, les Occidentaux se sont peu à peu octroyés un droit de chasse exclusif sur les espaces forestiers.
La faune sauvage étant aussi chassée pour ses trophées à l'époque très prisée sur les marchés internationaux, les Occidentaux ont établi des règles qui excluaient les peuples indigènes. De chasseurs de subsistance, ces derniers se sont retrouvés accusés de braconnage.
C'est le début de la résistance silencieuse des Baka, qui, sans exprimer d'opposition manifeste, ne cesseront jamais d'aller dans la forêt pour chasser, s'exposant ainsi à la répression. À la même époque, l'administration coloniale quadrille le territoire et ne reconnaît comme ayant droit sur les terres que les chefs de village bantous, déjà sédentaires. La mobilité des Baka en fait les grands oubliés de cette répartition. Lorsque dans les années 50, la même administration impose à tous les autochtones de se sédentariser pour pouvoir prélever l'impôt et réquisitionner de la main-d'œuvre,
ils se sont retrouvés sans terre, contraints de s'installer au bord des routes. Mais là encore, les clans ont continué de se retrouver en forêt, à la bonne saison, pour chasser sous les radars des autorités.
Avec la décolonisation, les Baka n'ont pas retrouvé un usage libre de la forêt. Au contraire, la création d'aires protégées pour la faune, de parcs nationaux pour le tourisme et l'emprise des unités forestières d'aménagement pour l'exploitation du bois d'œuvre, appartenant historiquement à des entreprises françaises, limite toujours plus l'accès aux territoires de chasse.
Aujourd'hui, la forêt est découpée et monopolisée de toutes parts. Les forêts sont mises en enclosure de manière à exclure les paysans et les chasseurs de l'usage de ces biens publics. La forêt communautaire que la loi leur laisse en gestion villageoise sont des espaces déjà dégradés, vidés de leur faune et même de leur essence précieuse. On n'y trouve plus les chenilles prisées sur les marchés, puisque les arbres sont coupés.
Quant à la chasse, les règles de plus en plus sophistiquées ne sont pas revenues en faveur des bacas. Si l'usage de la lance traditionnelle leur est encore autorisé, le gibier correspondant à cette arme, lui, ne l'est plus.
Cette arme est faite pour tuer le gros gibier, pas des lapins ou des ragondins. Mais le gros gibier est désormais protégé par l'UICN, ce qui n'empêche pas les gros braconniers de faire leurs affaires.
Les armes à feu sont autorisées, mais à condition d'avoir un port d'armes, donc des papiers d'identité.
Donc de l'argent. C'est tout un processus qui les exclut.
Constate Laurence Boutineau. Sans terre à exploiter, sans accès à la forêt, les bacas travaillent parfois au champ pour le compte des bantous, en échange de quelques francs CFA, quand ils ne sont pas exploités gratuitement.
Le plus cynique, c'est que les sociétés forestières les emploient maintenant pour surveiller les forêts d'où ils sont chassés et dénoncer les braconniers qui sont parfois leurs propres frères.
L'anthropologue raconte ainsi l'arrivée au village de Mindourou lors de sa dernière mission au Cameroun en 2018.
À côté de la cahute de la gendarmerie, il y avait un terrain grillagé dans lequel était enfermé depuis plusieurs mois un baka. Il avait été pris avec trois méchants lapins dans son sac.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Lumlu. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et vous pouvez aussi le partager autour de vous. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.